Bonjour, c'est Juliette de Chance. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Si vous ne nous connaissez pas encore, Chance accompagne des milliers de personnes pour les aider à retrouver du sens dans leur vie professionnelle. Je vous propose aujourd'hui d'aller à la rencontre d'une personne qui va nous partager son parcours. Comment est-elle rentrée dans la vie professionnelle? Quelles furent ses bifurcations, s'il y en a eu? Les rencontres marquantes qu'elle a faites? Quels apprentissages et quels conseils peut-elle nous partager? Et surtout maintenant, quelle direction et quel sens souhaite-t-elle donner à sa vie pro? Chaque histoire est personnelle, mais dans chaque histoire, il y a de l'universalité. J'espère que ce témoignage vous inspirera et résonnera pour vous, autant que pour moi. Vous écoutez « Et sinon, le boulot ça va ?» Le podcast pour vous aider à répondre un grand oui à cette question. Pour ce nouvel épisode, je suis heureuse d'accueillir Lysiane. Lysiane a toujours été bonne élève. Tout au long de son parcours scolaire, elle a entendu « Avec tes notes, tu peux faire ce que tu veux ». Mais le petit hic, c'était justement de réussir à trouver ce qu'elle souhaitait réellement. Lysiane s'est rapidement engagée pour améliorer la situation des personnes en situation d'handicap. Malgré cet engagement, elle n'arrivait pas à trouver sa place dans le monde professionnel. Je vous laisse découvrir son parcours et ses choix de vie. Vous écoutez « Et sinon, le boulot ça va ?» Le podcast pour vous aider à répondre un grand oui à cette question. Bonjour Lysiane, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation de partager ton parcours et ton bilan de compétences que tu as pu faire avec Chance. Nous sommes très heureux de t'accueillir sur ce podcast et sinon le boulot ça va. Est-ce que pour la première question que j'ai envie de te poser et que je pose quand même très souvent aux personnes, c'est est-ce que tu peux nous dire d'où tu viens et quel est ton parcours?
Bonjour Juliette, merci de cette invitation qui j'espère pourra aider un certain nombre de personnes. Donc, je m'appelle Lysiane, j'ai 30 ans, j'habite en région parisienne et je suis architecte d'intérieur depuis bientôt un an.
Et je suppose que si tu es passée par le bilan chance, tu n'as pas toujours exercé ce métier.
Non, effectivement. Alors, si on reprend mon parcours du départ, donc au niveau scolaire, j'ai toujours eu un niveau correct. On m'a répété à longueur de temps, avec les notes que tu as, tu peux faire ce que tu veux. Ce qui, contrairement à ce qu'on pourrait croire, n'est pas toujours très aidant quand on n'est pas accompagné autour, parce que je me suis souvent sentie assez perdue. Je n'avais pas de réelle passion hormis un sport, donc la gymnastique rythmique que j'ai pratiquée à plutôt bon niveau, mais je m'intéressais un petit peu à tout, ce qui fait que je n'ai pas eu de ligne directrice ou d'objectif, en tout cas au départ. Enfin, j'ai fait plusieurs choses qui m'ont menée là où je suis aujourd'hui. Ça, c'est grâce au parcours chance.
Ok, intéressant. J'ai envie d'en savoir plus sur ces plusieurs choses.
Au départ, j'ai un bac littéraire et puis comme j'aimais le sport et puis par question de facilité aussi puisque j'habitais à côté de l'université qui proposait ce diplôme, je me suis orientée vers une formation STAPS qui est une formation en sciences et techniques des activités physiques et sportives. Donc ça, c'était juste après mon bac littéraire et c'est quelque chose d'assez scientifique. Donc finalement, il y a eu un décalage entre les deux, mais je suis quand même allée au bout du parcours, c'est-à-dire que j'ai eu ma licence, puis j'ai réalisé un master en activité physique adaptée et accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. Malgré ça, en fait, je ne savais toujours pas où cela allait bien pouvoir me mener. À la suite de mes études, j'ai travaillé pour différentes fédérations sportives. Je travaillais notamment sur le sport santé, l'activité physique adaptée, donc à des personnes, des publics dits fragiles. Et puis ensuite, je me suis dit, j'ai envie d'autre chose, je ne sais pas encore quoi, on va voir ce que je pourrais bien faire. Et donc, j'ai réalisé un premier bilan de compétences à l'époque. Donc, ça devait faire 3 ans que j'étais sortie de l'école. Et ce premier bilan de compétences ne m'a pas réellement aidée plus que ça, hormis à sauter le pas et changer un petit peu de secteur. J'ai travaillé ensuite dans la prévention de la perte d'autonomie auprès des caisses de retraite et puis dans une collectivité territoriale pour tout ce qui était application de la politique du maintien à domicile. Donc ça, c'est ma dernière expérience en tant que salariée. Et donc, lors de cette expérience, je ne me sentais toujours pas réellement à ma place. Et j'ai vu passer sur les réseaux sociaux un petit pitch de chance qui proposait donc un bilan de compétences assez innovant. Et l'approche du bilan de compétences qui était vraiment axée sur la personnalité, les attentes, les rêves d'enfant, etc., m'a tout de suite plu. Et donc, j'ai sauté le pas et j'ai commencé ce bilan de compétences.
Ok, hyper intéressant. J'ai déjà plein de questions à te poser. Le fait que tu te sois spécialisée sur les personnes en situation d'handicap ou les publics dits fragiles, comme tu le dis, est-ce que c'est par une histoire personnelle, un vécu, ou parce que c'est quand même, je sens que c'était une sensibilité que tu as eue assez jeune finalement, dès tes études, tu t'es dit, tiens, je vais m'intéresser à ce public-là en particulier. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi ?
Oui, bien sûr. Alors, pour être tout à fait transparente, moi, je suis petite sœur d'une personne qui est polyhandicapée. Et donc, c'est vrai que ce monde-là m'a toujours été plutôt familier. Et en même temps, je me suis toujours assez rendu compte de tous les manques qu'il pouvait y avoir à ce niveau-là, en tout cas dans l'accompagnement de ces personnes. Et puis, je pense que ces choix donc, que j'ai faits de manière inconsciente, parce que j'étais jeune, avait finalement donc du sens pour moi à ce moment-là. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui me tient toujours à cœur aujourd'hui.
C'est intéressant quand tu parles du moment où tu es tombée sur le discours du pitch chance, peut-être que tu avais dû voir sur Internet, sur les rêves d'enfants. J'ai essayé de relier ça à ce que tu m'as dit sur bah, quand j'étais plus jeune, on m'a souvent dit avec tes notes, tu peux faire ce que tu veux. Est-ce que tu avais un rêve d'enfant ? Est-ce que ce moment-là, tu as reconnecté à un rêve ?
J'ai toujours été une petite fille assez rêveuse, mais sans jamais me dire que c'était possible. C'est-à-dire que je rêvais d'un tas de choses, mais pour moi, ça restait vraiment au niveau des rêves. Et puis, il y avait un décalage entre la réalité, la vie quotidienne et puis ce qu'on pouvait s'imaginer à ce moment-là.
Et est-ce que tu parlais que tu as fait de la gymnastique rythmique sportive, de la GRS plutôt à haut niveau ? Est-ce que tu avais parfois le rêve d'en faire carrière, d'avoir une carrière professionnelle dans ce milieu-là ?
Alors non, pas forcément. Je pense que c'est quelque chose qui est resté vraiment au niveau de l'enfance et de l'adolescence. Quand j'avais 12 ans, j'ai fait du sport-études. Donc j'ai été pendant un an éloignée de ma famille. J'habitais dans une autre famille à ce moment-là. Et puis c'est une expérience assez intéressante parce que ça m'a aussi ouvert l'esprit et je pense que je savais que je n'en ferais pas mon métier, mais en tout cas, je savais aussi qu'un tas d'autres choses étaient possibles.
Donc du coup, on arrive au moment où tu vois finalement ce pitch chance et tu décides de t'inscrire au bilan de compétences. Est-ce qu'il y a eu peut-être une action ou un événement déclencheur qui fait que tu passes à l'action et que tu t'inscris, tu te lances ou pas spécialement ?
Pas spécialement parce que je suis plutôt une personne qui fonctionne à l'instinct. J'ai eu un coup de cœur quand j'ai vu cette publication. Et donc, je me suis dit, bon, ben, autant essayer, on verra ce que ça donne. Et donc, j'ai sauté le pas assez rapidement, finalement.
Est-ce que, du coup, il y a eu des choses pendant ce bilan de compétences que tu as apprises sur toi ?
Oui, alors j'ai appris un tas de choses. Mais parce que le bilan de compétences force à l'introspection. Et je trouve que quand on se prête au jeu de cette introspection, on en ressort beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments un peu insoupçonnés. Et c'est vrai que la force du bilan de compétences chance, c'est qu'on est accompagné par un coach qui nous est attitré en fonction de notre personnalité, de nos attentes. Et donc, en général, il nous correspond plutôt très bien.
Donc, c'est intéressant. Tu disais qu'il y a eu des choses insoupçonnées qui sont arrivées. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ?
Pendant le bilan de compétences, donc, je me suis autorisée à nouveau à rêver. En fait, c'est quelque chose que j'avais mis un petit peu de côté au niveau professionnel. Je me suis laissée aller de poste en poste et ça m'allait très, très bien. Sauf que je me suis reconnectée à cette petite fille finalement qui avait besoin de rêver. Et donc, le fait de ne jamais me sentir à ma place, finalement, c'est parce que je ne m'étais pas autorisée à nouveau à rêver à cette vie professionnelle dont tout le monde a le droit, finalement. Donc, j'ai repris, en fait, le principe de m'autoriser à rêver, de revoir un petit peu ce que j'aimais, ce qui, dans la vie quotidienne, faisait que je passais du temps à faire des choses qui, pourtant, ne me semblait pas être de la perte de temps. Il s'avère que je me suis découverte créative, chose que j'avais vraiment mis de côté depuis très longtemps. Et grâce à ma coach notamment, j'ai pu refaire le lien avec cette créativité, reprendre goût à tout ce que je faisais à ce niveau-là et en tous les cas à y accorder de la valeur. Et ça, c'est intéressant parce que ça a été une prise de conscience assez forte. Tout le côté confiance en soi que je n'avais pas à ce niveau-là, on l'a aussi travaillé avec ma coach et c'était vraiment précieux.
Et donc justement, tu nous parles peut-être de confiance en soi. Est-ce que pendant le parcours, même de manière plus générale, est-ce que tu as eu des moments de doute et comment tu les as dépassés si jamais tu en as eu ?
Alors oui, j'ai eu beaucoup, beaucoup de moments de doute. Je pense que douter fait aussi partie de la vie et ça nous fait grandir. Et donc heureusement, quelque part, on doute. Maintenant, il ne faut pas que ça nous empêche d'avancer et en l'occurrence, c'est un petit peu le cas. D'où l'intérêt d'avoir quelqu'un de neutre en face qui nous aide et qui nous porte, qui nous renvoie aussi des choses qu'on ne voit pas forcément nous-mêmes. Et donc, j'ai beaucoup douté effectivement pendant ce parcours parce que c'est vrai qu'on voit souvent des gens qui réussissent très très bien, très très vite, qui font des reconversions professionnelles réussies et qui font rêver finalement. Et souvent, on a envie de croire que ça peut nous arriver, mais en même temps, on se dit, mais finalement, pourquoi ça fonctionnerait sur nous ? On peut être quelqu'un de tout à fait lambda et se dire que non, enfin, pour moi, ça ne pourrait pas fonctionner parce que justement, je ne suis pas cette personne. Et donc, j'ai vu beaucoup, beaucoup de personnes interagir dans la communauté Chance qui avaient réussi plein de choses, qui étaient passées d'une activité professionnelle à une autre et qui étaient complètement épanouies. Et au départ, je me suis dit, mais ça ne peut pas fonctionner sur moi, ce n'est pas possible. J'ai déjà fait un bilan de compétences, je n'ai jamais vraiment trouvé ma place. Et puis, je me suis laissée aller dans le parcours. J'ai fait confiance, en fait, au parcours Chance. Un matin, je me suis réveillée avec une espèce de fulgurance et je me suis dit, mais en fait, c'est ça que tu dois faire, c'est là où tu dois être. Et tout était devenu bien plus clair dans ma tête.
Donc finalement, le fait de te reconnecter à tes rêves, travailler la confiance en soi, voir que en fait, finalement, c'était peut-être pas un rêve, mais bien possible de l'atteindre et de le réaliser, donc plutôt une réalité possible, ça t'a permis de gagner en clarté. Et donc, c'est comme ça que donc, tu es devenue et que tu as défini le projet professionnel de décoratrice d'intérieur, c'est ça ?
Oui, c'est ça. C'est vraiment une reconnexion à son moi profond. Mais en fait, je pense que c'est aussi un tout. C'est comme tu le dis, c'est et la confiance en soi, et s'autoriser à rêver. Et vraiment, à la fin, on en ressort quelque chose qu'on n'aurait pas pu imaginer quelques mois auparavant.
Comment tu as fait pour dessiner ce projet professionnel ? Parce que donc là, il y a le métier, mais par exemple, sur tes impératifs de vie, quand tu en as parlé à tes proches, est-ce que tu as eu des retours, peut-être des retours, des interrogations, des objections ? Comment ça s'est passé ? Parce que là, pour le coup, on est sur un projet de reconversion où tu changes de métier, d'environnement, de finalité. Donc, on est sur un projet, on va dire, total. Et je sais que ces projets-là peuvent parfois susciter beaucoup d'interrogations de l'entourage. Ça demande un travail peut-être très important sur les impératifs financiers, géographiques, etc.
Alors, j'ai rapidement fait part à mes proches de, alors pas forcément que du projet, mais déjà de ma démarche de bilan de compétences. Et puis, ils m'ont tout de suite accompagnée dans ce projet. C'est-à-dire que je me suis sentie très soutenue à ce moment-là. J'ai eu la chance d'être bien entourée. Et quand il a fallu annoncer donc, quelle serait cette fameuse reconversion, j'ai eu d'assez bons retours finalement. Les personnes m'ont dit « mais bien sûr qu'on te voit faire ce métier-là, bien sûr que tu seras plus à ta place, ce sera plus en accord avec qui tu es vraiment ». Et alors, je ne m'y attendais pas du tout parce que comme je sautais du coq à l'âne finalement, je me suis dit que ça allait forcément être un petit peu mal perçu. D'autant plus qu'effectivement, tu parles d'impératif. Moi, je suis propriétaire, je vis avec quelqu'un, donc forcément, ça engendre des sacrifices au niveau financier ou en tout cas de revoir les choses. Et si la personne avec qui l'on vit n'est pas en accord avec ça, ça peut s'avérer très compliqué.
Oui, donc ça nécessite des conversations avec la personne qui partage notre vie et notre quotidien finalement.
Oui, absolument.
Et donc, je me demandais, est-ce que tu étais en poste quand tu faisais le bilan ?
Oui, alors j'étais sur la fin du poste que j'occupais. J'occupais un CDD, donc dans la fonction publique territoriale. Le poste avait la possibilité d'être renouvelé, bien sûr. Mais je me suis dit que c'était la bonne période aussi pour réaliser ce bilan de compétences et être sûre de la suite. Ça permettait déjà d'une, de ne pas causer de tort à mon employeur, puisque mes missions allaient être remplies, en tout cas dans les délais qui étaient impartis au départ.
Est-ce qu'il y a des rencontres professionnelles qui t'ont marqué ? Alors, pas uniquement pendant le bilan de compétences, mais même de manière générale dans ton parcours professionnel global ?
Oui, je pense que j'ai eu la chance de rencontrer un tas de personnes tout au long de mon parcours qui ont été très inspirantes, que j'admirais énormément. Même si je ne me sentais pas forcément à ma place, ces personnes m'ont quand même beaucoup appris. Des personnes qui m'ont fait confiance aussi, qui m'ont donné ma chance. Et je pense que sans ces personnes-là, je n'aurais pas pu faire le chemin que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Même si ça n'avait rien à voir avec ce que je fais maintenant, je trouve que toute expérience est de toute façon bonne à prendre et on en ressort des compétences qui sont aussi transversales. Et c'est là où ça devient intéressant parce que des choses qui nous paraissent complètement anodines à un moment donné, on peut les réutiliser en fait dans d'autres contextes et ça c'est chouette.
Oui, en effet. Donc là, tu parles plutôt des compétences transférables, des personnes qui t'ont permis de mettre en lumière toutes ces choses. C'est marrant parce que tu répètes plusieurs fois que tu n'arrivais pas à trouver ta place dans tes différentes expériences, qu'il y avait ce sentiment de ne pas être à ma place. Comment ça se traduisait concrètement chez toi ?
Ce sentiment de ne pas être à sa place, c'était surtout à un moment donné, en tout cas dans une position où on sent de l'ennui au quotidien, où on se dit que finalement ce qu'on fait, ça n'a pas de sens, alors que parfois ça en a. En tout cas, j'espère. Mais voilà, c'est ce manque de sens, cet ennui.
Mais comme quoi, je trouve que c'est intéressant parce que dans tout ton parcours professionnel précédent, le bilan de compétences chance, il y avait une finalité qui était très noble, qui est finalement un peu l'accessibilité aux personnes en situation de handicap, mais que malgré une finalité qui peut paraître noble, on peut avoir un manque de sens au travail. Et je trouve ça très intéressant finalement dans ton parcours. Et si on revient du coup à aujourd'hui. Aujourd'hui, tu es décoratrice d'intérieur. Comment s'est passée la transition, c'est-à-dire la fin du bilan, la mise en action ? Est-ce que tu avais encore des doutes ?
Alors, j'avais des doutes encore à la fin du bilan parce que je ne me sentais pas légitime de faire ce métier. Donc, il y a eu une énorme réflexion autour de la formation. J'ai travaillé aussi avec ma coach sur justement ce syndrome de l'imposteur. Et puis, un jour, j'ai osé envoyer ma candidature à l'école Boulle, donc est une école parisienne qui propose une formation en design d'espace dans le cadre de reconversion professionnelle. Et j'ai reçu une réponse favorable de cette école. Donc, ça a été pour moi un élément déclencheur, un petit détail de la vie qui m'a fait me dire, bon, alors, tu as envoyé ta candidature, tu as reçu une réponse favorable, pourquoi tu n'en serais pas capable ? Bon, il s'avère que pour diverses raisons, je n'ai pas choisi cette école, mais en tous les cas, elle m'a permis, cette réponse, de me sentir un petit peu plus légitime de prétendre à une formation dans ce secteur. Et ce travail, je l'ai fait grâce à ma coach aussi. On se rend compte qu'on a des compétences, on ose ensuite passer le pas de postuler quelque part. On a une réponse favorable et on se dit « bon, ok, ils prennent peut-être beaucoup de monde ». Et finalement, quand on retravaille sur tout ce processus, on s'aperçoit que non, ce n'est pas anodin, qu'il y a une raison et que si la candidature est acceptée, c'est que quelque part, la vie nous pousse dans cette direction-là.
Hyper intéressant, en fait, de voir cet élément déclencheur finalement qui est assez rassurant et qui permet de continuer dans cette direction. Aujourd'hui, quand tu prends ton métier, quelles sont les choses que tu aimes le plus et quelles sont celles qui sont les plus challengeantes pour toi ?
Alors, ça va bientôt faire un an que je suis architecte d'intérieur, mais presque 2 ans finalement que je suis dans ce secteur, puisqu'il y a eu tout le temps de formation. Je vais parler de mon recul à date d'aujourd'hui, évidemment. Peut-être que dans quelques années, ce ne sera pas la même chose. Mais en tout cas, aujourd'hui, il y a assez peu de facettes du métier que je n'apprécie pas. Enfin, j'ai un plaisir à me lever le lundi matin que je n'avais pas auparavant. Le blues du dimanche soir a complètement disparu parce que les semaines s'enchaînent et ne se ressemblent pas. Parce qu'au-delà du changement de métier, il y a aussi eu un changement de statut. C'est-à-dire que je suis passée du statut de salarié au statut d'indépendante. Et c'est une grande découverte aussi. Et c'est un monde très riche et très challengeant finalement. Et donc ce nouveau challenge est tellement stimulant qu'aujourd'hui, c'est un apprentissage chaque jour et l'ennui n'est plus là.
Tant mieux. Je m'aperçois que dans mes précédentes questions, j'ai parlé plutôt de décoratrice intérieure et toi, tu me parles d'architecte d'intérieur. Est-ce qu'il y a une différence entre les deux ou c'est c'est deux intitulés différents pour un même métier?
Alors en fait, ce sont deux métiers différents.
Ah, alors hyper intéressant. Je veux bien que tu m'expliques la différence et je suis désolée pour cette erreur.
Non, je t'en prie. C'est vrai que avant même de travailler ou en tout cas de m'intéresser à ce secteur-là réellement, je pensais que les métiers étaient assez similaires. C'était qu'une question de sémantique finalement. En fait, la décoration intérieure, ça va toucher à tout ce qui est mobilier, à toutes les choses qu'on peut finalement changer assez facilement. C'est comme ça qu'on pourrait le résumer. C'est tout ce qui rentre dans un camion de déménagement. A contrario, l'architecture d'intérieur, c'est plutôt tout ce qui touche à la répartition des volumes, de l'espace, des cloisons, donc les murs et éventuellement des murs porteurs auxquels on pourrait toucher sous réserve d'assurance. Enfin, ça peut être aussi les peintures, du mobilier sur mesure. Donc, c'est un tout petit cran au-dessus. En tout cas, un tout petit cran différent, on va dire, de la décoration d'intérieur.
Ok, d'accord. Bah, merci en tout cas pour cet éclaircissement que j'avais pas forcément capté. Si par exemple, tu devais parler à la petite fille, à la petite Lysiane, qui a 12 ans, justement, qui est éloignée de sa famille, qu'est-ce que tu lui dirais?
Alors, je dirais que il faut faire confiance à la vie. C'est quelque chose que je me répète beaucoup aujourd'hui. Je lui dirais vraiment, aie confiance en la vie. Elle te mènera forcément là où tu dois être à un moment donné, malgré les épreuves, malgré les difficultés, les obstacles. Il y en aura toujours, mais ce sera source d'apprentissage. Par contre, tu n'échapperas pas au chemin par lequel tu dois passer. Donc, vas-y. Et puis, je lui dirais aussi que bien sûr que tout est possible. Alors évidemment, il y a des nuances, hein, on est d'accord. Mais en tous les cas, autorise-toi à rêver, c'est possible.
Et justement, sur le chemin que tu as parcouru, est-ce que tu as eu des obstacles? Quels ont été pour toi des obstacles que tu as pu surmonter?
Au niveau des obstacles, je dirais que c'est plutôt des moments de doute, des moments où vraiment il y a de grosses remises en question. C'est difficile parce que ce travail, en fait, on le fait soit face à soi-même. Et c'est là où c'est un petit peu compliqué parfois, c'est que si on n'est pas entouré, ça peut devenir très, très difficile. Donc, je ne dirais pas que ce sont des obstacles. Après, évidemment, on a tous des obstacles qu'on doit franchir. Mais voilà, ce sont plus les moments de doute qui ont été difficiles que les obstacles, finalement.
Est-ce que y a eu un moment de doute en particulier auquel tu penses là, quand tu parles ou pas forcément?
Oui, c'est l'expérience dont je te parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que se rendre compte qu'un tas de personnes passent le pas, réussissent une reconversion et être devant son écran et se dire « mais est-ce que ça va fonctionner pour moi ?» Voilà, ça a été très difficile. Ce qui a été aussi assez difficile, c'est forcément de changer de secteur et donc de recommencer quelque part une vie professionnelle à zéro, comme pourraient le croire beaucoup de personnes, alors qu'on ne recommence jamais de zéro. Mais ouais, ce sont vraiment ces doutes qui sont parfois assez anxiogènes aussi au quotidien. Mais une fois qu'on a confiance, qu'on a les outils aussi, ça peut énormément nous aider et surmonter tout ça.
Je pose souvent la question pour les personnes qui étaient en salariat et qui passent indépendant. Comment se passent les premiers moments de prospection? Les premiers moments où tu dois aller trouver tes clients? Est-ce que ça a été difficile pour toi? Comment tu as passé le pas? Est-ce qu'aujourd'hui, tu es plus à l'aise?
C'est vrai que tout à l'heure, tu me demandais de parler justement des facettes un petit peu plus complexes de ce métier. Et pour moi, c'est quelque chose qui en fait partie. Aujourd'hui, communiquer, savoir vendre ses compétences, c'est pas quelque chose d'inné, surtout quand on a toujours été salarié et qu'on ne faisait pas toute cette partie-là. Finalement, ça nous ramène à nous-mêmes aussi. C'est-à-dire que quand on est indépendant, la valeur de notre travail se rapporte à la valeur de qui on est. Et c'est là où c'est très, très difficile de faire la part des choses. Il faut savoir s'en détacher et j'ai encore un petit peu de travail à ce niveau-là.
En tout cas, c'est hyper intéressant. Est-ce que, j'ai posé la question de la petite fille, si on appuie sur avance rapide, que dans, on va dire, une vingtaine d'années, si tu regardes dans le rétroviseur, qu'est-ce que tu aimerais voir ?
Alors, j'aimerais voir qu'à un moment donné, il y a eu une grande prise de confiance en soi, que je n'ai pas renoncé malgré potentiellement des obstacles qui sont arrivés sur mon chemin. C'est vrai que la notion de persévérance est assez importante, surtout quand on est indépendant. Malgré la vie quotidienne, nos impératifs, etc., ça peut être très challengeant à ce niveau-là. Donc, j'aimerais vraiment ne pas avoir renoncé, avoir continué de faire confiance à la vie et d'avoir fait grandir ma petite entreprise.
On parlait au tout début que du coup, tu es la petite sœur d'une personne qui est polyhandicapée. Est-ce que tu continues ton engagement dans cette cause à côté de ton parcours professionnel ? Est-ce que tu as des activités ou justement non, pas du tout ?
J'ai pas complètement en fait fait une césure entre mon ancienne activité professionnelle et ma nouvelle activité professionnelle à ce niveau-là. C'est-à-dire que j'ai réussi à trouver un lien entre les deux, puisque aujourd'hui je travaille aussi pour des personnes qui sont à mobilité réduite et qui auraient besoin d'un logement, d'un aménagement qui soit ergonomique et pratique au quotidien donc pour elles.
Ah, mais hyper intéressant.
Oui, c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Et aussi d'avoir cette compétence en matière d'accessibilité me permet de travailler avec des professionnels qui devraient mettre aux normes leurs locaux, notamment. Donc voilà, malgré, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, malgré l'apparent écart entre l'ancienne activité et la nouvelle, il y a quand même un lien et c'est hyper important de pouvoir le garder et de valoriser aussi ces compétences déjà acquises au préalable.
Oui, c'est hyper intéressant cette réponse parce que justement, elle montre que au début, moi j'ai cru que c'était un projet de reconversion totale, mais en fait, pas tellement parce qu'il y a en effet ce lien que tu as su trouver entre tes anciennes activités, ton expertise sur le sujet des personnes à mobilité réduite et justement ta nouvelle activité. À la base, je posais la question parce que pendant le parcours du bilan de compétences chance, on dit que c'est aussi parfois OK en fait de développer une activité à côté de sa carrière professionnelle qui nous permet de trouver du sens et de se dire en fait j'ai ma carrière, mon métier et à côté en fait je trouve du sens par mon engagement associatif, etc. Donc c'est pour ça que je posais cette question là, mais du coup j'adore la réponse que j'ai eue.
En fait, je n'ai jamais complètement renié cette partie de mon travail et cet engagement qui me tenait à cœur dès le début.
Et du coup, une dernière question. Que conseillerais-tu aux personnes qui peuvent se sentir un peu perdues et qui se tournent vers chance ?
Je leur dirais de faire confiance au parcours. Je leur dirais de, si possible, essayer de jouer le jeu de l'introspection parce qu'on en ressort des choses vraiment qu'on n'aurait pas imaginées. Et si on ne se prête pas au jeu complètement, on peut passer malheureusement à côté de certains aspects de notre personnalité, mais aussi de potentielles évolutions de carrière. Donc, autant s'y prêter à fond.
Super. Un grand merci, Lysiane, pour ce partage et cette interview.
Merci, Juliette.
Merci d'avoir écouté Et sinon, le boulot ça va ? Le podcast pour vous aider à répondre un grand oui à cette question. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez laisser 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcasts ou Deezer. Cela ne semble rien, mais cela aide beaucoup à soutenir le podcast. Vous pouvez aussi m'écrire sur Instagram, @chance-fr. Et n'hésitez pas à recommander ce podcast à toutes celles et ceux proches qui ont besoin de retrouver du sens dans leur vie pro. À bientôt.